J'aimerais maintenant vous inviter à suivre une lecture de la parole dans le livre de l'Évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Nous allons lire un court passage. Matthieu 16. À partir du verset 13, nous lirons. Et je vous invite à prier avant de lire la parole. Quel privilège, notre Père, de pouvoir venir à toi. Merci pour ce don précieux de ta parole que tu nous as conservé à travers les siècles. Nous sommes tellement heureux, Seigneur, qu'à travers elle, nous pouvons te découvrir, te connaître, apprécier ta présence, ton amour, ta personne, ta grâce. Et Seigneur, notre prière, c'est que tu fasses silence en nos cœurs maintenant. Enlève toute distraction, aide-nous à nous concentrer sur ta parole. Nous voulons mieux te connaître, connaître ta volonté pour mieux t'obéir et mieux te servir dans notre vie. Que ta parole et ta volonté s'accomplissent dans nos vies. Au nom de Christ, amen. Au verset 13, Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Un peu plus loin, au verset 21, « À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Nous arrêterons là notre lecture. Je bâtirai mon église. Est-ce que vous savez quel est l'immeuble le plus élevé au monde ? Dubaï, oui, exactement. C'est le 4 janvier de cette année qu'a été inaugurée la tour Burj Dubaï. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, je ne suis pas arabe. Mais imaginez qu'elle a 828 mètres de haut, 160 étages, c'est quelque chose de presque inconcevable. Hein? Comment est-ce qu'elle peut résister au vent, aux tempêtes? J'en sais rien, mais j'aimerais pas être au 160e étage. Hein? Personnellement, je sais pas, il y en a peut-être qui aimeraient ça, avec un parachute peut-être. Mais il y a un projet encore plus fou que ça. Une tour de 1000 mètres, 1 kilomètre. Elle serait probablement déjà réalisée si la crise mondiale, la crise financière, n'avait pas eu lieu. Tout est retardé. Mais imaginez 1 kilomètre de haut. Bien, vous savez, si l'homme peut faire cela, c'est parce que le Créateur a doté l'être humain d'une intelligence formidable. Au point que l'homme, c'est vrai, l'homme a réalisé des choses vraiment grandioses à travers l'histoire et il nous reste des traces. Pensez au Taj Mahal en Inde, à la Grande Muraille de Chine, les pyramides d'Égypte, et j'en passe. Je pense aussi à un édifice dont parle le livre de la Genèse, dont on n'a plus aucune trace, c'est la tour de Babel. Elle devait déjà être belle, grande, peut-être pas terminée, non, elle n'était pas, puisque Dieu a interrompu le projet, mais ça aurait pu être un édifice énorme, à mon avis. L'histoire n'a pas laissé de traces de celle-là. En tout cas, il reste encore des ziggourats, des vestiges des ziggourats, qui étaient ces tours, ces villes-tours qu'il y avait en Mésopotamie. Il en reste encore quelques vestiges. Malheureusement, tous les grands projets humains, quels qu'ils soient, ne passent pas l'épreuve du temps. Parce que, à cause de la nature humaine, évidemment, ils sont entachés par le mal et la corruption. Ils sont victimes aussi de l'usure, du temps, de la corrosion, de la dégradation. Malgré tous les beaux projets que l'être humain peut avoir, la plupart du temps et pratiquement toujours, ça échoue en bout de ligne. Mais pour ce qui est de Dieu, il en est tout autrement, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? L'œuvre de Dieu est extraordinaire, elle est magnifique. Et particulièrement, ce que Jésus annonce ici comme projet, « Je bâtirai mon Église », c'est vraiment quelque chose de grandiose. Quelque chose que l'être humain n'aurait probablement jamais pu imaginer ou concevoir. Et encore moins capable de le réaliser, à cause de notre nature humaine. Mais ce projet grandiose de Dieu, c'est quelque chose de dynamique. Ça bouge, ça se multiplie, ça grandit. Et ça passe de génération en génération. C'est une œuvre que Dieu fait, une œuvre exponentielle, avec une portée éternelle. Ça dépasse l'entendement. Cette œuvre, « Je bâtirai mon Église », que Jésus a entamée un peu plus tard, après son annonce, eh bien, ça touche autant l'aspect matériel, notre corps humain, que l'aspect immatériel de notre être, notre âme, notre esprit, puisqu'ils sont régénérés en Jésus-Christ, et c'est en tant que personne régénérée que nous sommes incorporés, inclus dans cette Église, et que nous pouvons évoluer et servir le Seigneur, et l'adorer, le célébrer comme on le fait ce matin, c'est grâce à l'œuvre de Christ. Mais ce projet de Dieu de bâtir son Église touche également le présent, le passé et l'éternité. Quelque chose d'exceptionnel, je bâtirai mon Église. Ça touche l'endroit où nous nous trouvons ce matin, notre nation et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ce projet s'effectue, se réalise et se poursuit depuis 2000 ans déjà. Et ça va en s'accroissant à la gloire de notre Dieu. Il englobe toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre, l'humanité entière. Il mobilise à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ainsi que tous les saints, tous ceux que Jésus-Christ sauve, qui sont régénérés par lui. Nous sommes participants de cette œuvre glorieuse qui est l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Ce matin, j'aimerais vous proposer, en un bref instant, de regarder ces quatre mots, « Je bâtirai mon Église » et d'en retirer des applications pour notre vie personnelle. Mais j'aimerais surtout que par cette parole de Dieu, sa parole, Dieu, ce matin, pour chacun d'entre nous, recentre nos vies sur sa personne, la personne de Christ, et sur son projet grandiose de bâtir l'Église et sur sa volonté. Réfléchissons et regardons, examinons ces quatre mots. « Je » tout d'abord. C'est le mot le plus court de cette courte phrase, mais c'est le mot le plus important. Quand Jésus prononce ces paroles, il est le Fils de l'homme. C'est lui qui le dit. Hein? « Que dit-on de moi, le Fils de l'homme ?» C'était sa question, alors qu'ils allaient vers Césarée de Philippe. C'est le Fils de l'homme. Jésus, au moment où il parle, c'est sa mission, son rôle. Mais il est aussi le Christ, le fils du Dieu vivant, la confession de Pierre, comme nous l'avons lu. Le Messie, tant attendu, depuis des siècles, il était annoncé. Et le voilà présent au milieu de ses disciples. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire que Jésus est tout à fait Dieu, pleinement Dieu. Au moment où il parle, où il fait cette annonce de son projet grandiose de bâtir son Église. Jésus, c'est aussi, au moment où il parle, celui qui devra souffrir. Il le dit, n'est-ce pas, au verset 21. Celui qui devra beaucoup souffrir. Yvan nous l'a rappelé tout à l'heure. Et nous avons commémoré la mort du Seigneur par le pain et la coupe que nous avons pris en sa mémoire tout à l'heure. Il est celui qui devra beaucoup souffrir, être mis à mort, ressuscité le troisième jour. C'est une annonce prophétique qu'il fait et qui s'accomplira dans quelques semaines ou mois, au moment où il en parle. Jésus est aussi le « je » ici. C'est lui qui plus tard, après sa résurrection, affirmera « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La fin de l'évangile de Matthieu. C'est encore lui qui a déclaré dans Jean chapitre 8 verset 58 à ses disciples et même à ses ennemis. avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est le Dieu tout-puissant. Il est ce Dieu venu sur terre pour sauver l'homme pécheur, mais repentant, et incorporer cet homme, cette femme, cet adulte, cet enfant dans son œuvre qu'est l'Église. Jésus-Christ est le Dieu infini. Je bâtirai mon Église. C'est lui, le Dieu infini, qui est en train de bâtir son Église. Ici, parmi vous, à Trois-Rivières, et les autres assemblées évangéliques qui professent, qui proclament Jésus-Christ à Trois-Rivières, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Il est le Dieu invisible, c'est vrai, et pourtant, il est si près de nous, au milieu de nous, en toi, en moi, par son Esprit Saint. Un Dieu glorieux, c'est lui qui est en train de bâtir son Église. Le deuxième mot. Tout d'abord, il est bon de remarquer que le verbe est au futur. Hein? Je bâtirai. Au moment où Jésus parle, ce n'est pas encore le cas. Mais il fait une annonce, une proclamation. D'abord, il y a d'autres événements qui doivent venir, qu'il annonce au verset 21. Ses souffrances, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection. Et finalement, cette Église, il va commencer à la bâtir le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. C'est ça le grand démarrage, le grand début. Et ça démarre d'une façon grandiose, des milliers de personnes, avec une prédication. J'imagine que Benoît aimerait ça, hein? Ou Joël, ou les autres pasteurs. Une prédication et t'aurais 3000 d'une shot. C'était des débuts grandioses. Mais c'est Jésus qui s'en charge. Et c'est lui qui réalise cela. C'est lui qui bâtit. C'est lui le sujet de ce verbe. Je bâtirai mon Église. Deuxième chose qu'on peut remarquer avec le verbe bâtirai, c'est que c'est lui le bâtisseur. Il est le sujet du verbe, hein, je viens de le dire. Et c'est qui ce bâtisseur-là? En fait, il n'est pas seulement le maître d'œuvre, comme on dit, dans la construction. Je ne sais pas comment on dit ici au Québec. Mais il est le concepteur, l'architecte, l'inventeur de cet édifice. Ça, c'est une image, hein, l'édifice, parce qu'il y a d'autres images dans la parole pour l'Église. Il en est le concepteur, l'inventeur. Et savez-vous ce qui est extraordinaire et ce qui me fascine, c'est qu'avant même la fondation du monde, Éphésiens chapitre 1, 4 à 6, avant même que Dieu a créé le moindre atome, la moindre particule, il avait déjà ce projet. Parce que vous et moi, il connaissait déjà notre nom, il savait déjà que nous ne ferions pas partie de son peuple, qu'il allait mourir pour nous sauver, pour que nous soyons ses enfants bien-aimés, pour que nous devenions un peuple saint pour lui, séparé, pur. Ça, c'est extraordinaire. Comme un architecte, nous étions, et l'Église de Jésus-Christ était déjà dans ses cartons, hein, comme un architecte, les plans d'architecte, on les met dans des grands cartons. Maintenant, on a l'informatique, mais autrefois, ou bien on les mettait dans des rouleaux, en rouleaux. Bien, avant la fondation du monde, tout ça c'était déjà prévu et prêt pour le grand jour, étape après étape. Mais ce n'est pas tout. Il n'est pas seulement l'inventeur, pas seulement l'architecte, mais il est dit justement dans 1 Corinthiens 3, 11, Paul dit que personne ne peut poser un autre fondement que Christ. Christ, c'est extraordinaire. Hein? Il construit ce bâtiment, cet édifice qu'est l'Église, mais il en est le fondement, en plus d'être l'architecte. Et ce n'est pas encore tout, il en est la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre principale sur laquelle on alignait les murs. Il est Dieu. Il est tout. C'est ça qui est extraordinaire. Nous le voyons à l'œuvre dans les livres des Actes. Relisez le livre des Actes, vous allez voir, étape après étape, il revient, il est là, il est présent. Et c'est lui qui fait croître, qui, par sa puissance, l'assistance du Saint-Esprit, sa parole, fait que les gens se convertissent et que l'Église se répand à travers l'Empire romain. Le but ultime de tout cela, je bâtirai mon Église, c'est que tous les peuples de la terre l'acclament, n'est-ce pas? Ça, c'est le but ultime. Et nous, ce matin, nous avons contribué aussi par notre célébration. Nous contribuons à sa gloire aussi. Et Dieu veut se servir aussi de sa parole qui est prêchée, qui est chantée le dimanche matin et à d'autres moments, pour que d'autres personnes puissent connaître Jésus-Christ, le grand bâtisseur, l'architecte, le sauveur du monde. Et peut-être qu'il en est parmi nous ce matin, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ sous cet angle-là, comme sauveur de leur âme. Eh bien, ce matin aussi, vous avez un rendez-vous avec le Seigneur. Vous pouvez lui dire ce qui vous préoccupe, le désir de votre cœur, mais demandez-lui surtout qu'il se révèle à vous dans sa parole et qu'il vous sauve. Demandez-lui de vous sauver. Il est fidèle, il va le faire, c'est certain. Le troisième mot, mon Église, mon. Mon Église, eh bien, c'est que c'est la sienne. Et souvent, moi, comme pasteur, il m'est arrivé de penser que c'était mon Église. Et là, ça va mal. Parce que personne, aucun être humain n'est capable de porter ce fardeau-là. Et parfois, communément, on dit « Ah ben, je suis allé à l'église du pasteur Intel. » Mais c'est oublié qui est le vrai pasteur, hein? Bon, on le fait parfois par commodité, mais ça peut être quand même un petit piège, je pense. N'oublions pas, c'est son église, n'est-ce pas? Et moi, comme ancien à Weislingen, ça c'est un autre mot allemand, hein? C'est l'église où on est, hein? On est membre. Moi, comme ancien dans cette église, on est 5 anciens, c'est pas mon église, Weislingen. C'est l'église de Jésus-Christ. Combien c'est reposant, n'est-ce pas? Quelque charge que nous ayons dans une église, eh bien, ce n'est pas la mienne, je ne suis pas à la hauteur et je ne pourrai jamais le faire. Mais Dieu, dans sa grâce, veut m'utiliser. C'est lui le responsable, c'est lui le chef, c'est lui le bâtisseur. Et faisons-lui confiance donc, nous pouvons lui faire tout à fait confiance. Son église, imaginez-vous, on le sait, hein, il la chérit. Éphésiens 5, 25, hein, nous les hommes, les maris, nous sommes appelés à aimer nos femmes comme Christ aime son Église. Je n'arriverai jamais, hein? Abby, elle me connaît. J'ai encore des progrès à faire. Mais imaginez comment Jésus peut aimer son Église. On ne peut même pas l'imaginer. Et cette Église, il est en train de la préparer pour l'accueillir à son retour. Il est en train de travailler dans son Église, d'œuvrer à travers elle et en elle. Son but ultime, c'est de la sanctifier. C'est de la rendre glorieuse, sans tache ni ride. Éphésiens 5, vous pourrez relire ce passage, un beau passage. 2000 ans après, Jésus-Christ est toujours en train de bâtir son Église à travers le monde et au sein d'une Église locale. Il est toujours en train d'œuvrer pour continuer à sanctifier, à multiplier, à former, pour que d'autres églises puissent être implantées. Et je suis tellement heureux de votre projet de la Rive-Sud. Dieu va vraiment en être glorifié. Église, je bâtirai mon Église. J'ai dit tout à l'heure, Dieu utilise d'autres images pour son Église. Le corps, la famille, la vigne, ça c'est d'autres images que Dieu utilise dans sa parole pour parler de son Église. Mais Église, c'est particulier ici, ça parle d'édifice, pas une cathédrale évidemment, c'est pas des pierres, des briques et du ciment dont il est question. Ce sont les gens à l'intérieur. Et cette image, eh bien, nous dit que nous sommes des pierres vivantes. L'apôtre Pierre utilise cette image dans 1 Pierre chapitre 2. Ce serait bien d'avoir le temps de le lire. Mais on va le prendre, hein, le temps. On a encore quelques petites minutes. 1 Pierre 2. J'aimerais vous lire ceci parce que c'est une source d'encouragement pour chacun d'entre nous. Et ça nous remet, nous donne la bonne perspective de notre tâche, de notre rôle dans cette Église, parce que nous avons tous un rôle. 1 Pierre 2, je vais lire 4 et 5. 1 Pierre 2, verset 4, en parlant de Jésus-Christ, dont il est question juste dans le verset précédent, il est dit « Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie, à laquelle il attache une grande valeur. » Jésus-Christ. Approchez-vous donc de lui, c'est une invitation pour chacun d'entre nous. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel, pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. On pourrait continuer à lire, mais nous sommes des pierres vivantes. Dieu prend des pierres mortes, des hommes au cœur de pierre. C'est une expression typique de l'Ancien Testament. Des hommes au cou raide, qui sont pas prêts à obéir. Eh bien, Dieu prend ce genre d'hommes et de femmes pour en faire des pierres vivantes, qui aiment, qui peuvent aimer maintenant. Eh bien, une fois que Dieu a fait de nous, de moi, pierre morte, une pierre vivante, il me place à un endroit spécifique de l'édifice, du bâtiment, de l'église. Nous sommes placés dans ce bâtiment, dans cet édifice, comme des pierres vivantes. Avant, on était inutiles, mortes, morts, froids. Mais une fois que nous sommes des pierres vivantes, Dieu va nous utiliser. Et ce qui est intéressant, au verset 5, il y a deux objectifs. Je lis encore ça et je continuerai pas dans 1 Pierre 2. Verset 5, on l'a lu d'ailleurs, il est dit ici, « Édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels. » Dieu ne nous place pas dans son édifice pour rien, mais il veut que nous servions pour sa gloire, que nous soyons utiles pour former un temple spirituel où chacun est intégré. On a une place, pas pour faire beau. Ouais, c'est beau une belle pierre hein, dans un édifice, mais Dieu ne nous a pas placés là juste pour être beau, mais utile. Chacun a sa place, avec un rôle à jouer, selon les dons que le Seigneur nous donne et le ministère auquel il nous appelle. Nous sommes tous appelés à servir Jésus-Christ d'abord, l'architecte, le divin architecte, celui qui bâtit son Église, mais nous sommes aussi appelés à nous servir les uns les autres dans l'Église et servir ceux qui sont en dehors, qui n'ont pas encore ce privilège de connaître Jésus-Christ comme leur Sauveur. Et il y a le deuxième but, constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, lui offrant des sacrifices spirituels. Eh bien, quel est le plus bel sacrifice, quel autre beau sacrifice qu'on pourrait faire au Seigneur que d'amener justement d'autres personnes à sa connaissance, qu'ils puissent sauver et intégrer comme des pierres vivantes à leur tour dans son édifice qu'est l'Église. Voilà le ministère auquel le Seigneur nous appelle, vous appelle. Tous ensemble, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous formons un peuple immense à travers la terre qui s'accroît à chaque génération depuis 2000 ans. Ce sera merveilleux au ciel hein, de connaître des chrétiens du 15e siècle, du 5e siècle, du temps des Actes. Ce sera formidable. Nous serons une foule immense, innombrable, qu'on ne pourra pas compter, qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse, à adorer Dieu pendant l'éternité. Cette œuvre de Jésus-Christ se poursuivra jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ça, c'est une expression de Paul, dans Romains, je crois. Oui, Romains 15, 11, je ne crois pas. mais Dieu a un plan. Son Église se poursuit, mais un jour, ça sera terminé. Il est temps, maintenant, d'annoncer le Seigneur, de faire connaître l'Évangile. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Dieu use encore de grâce aujourd'hui. Mais le jour où la totalité des païens sera entrée, eh bien, nous, son Église, nous serons rappelés à Jésus-Christ. Il va venir chercher son Église pour les noces de l'agneau et pour être éternellement avec lui. N'est-ce pas une œuvre grandiose, n'est-ce pas? Jésus a commencé quelque chose d'extraordinaire il y a 2000 ans. Je bâtirai mon Église. Et nous faisons partie de ce projet glorieux. Moi, je suis exalté de voir, de savoir que je suis participant de cette œuvre, sauvé par grâce, incorporé dans cet édifice comme une pierre vivante, participant à la gloire de Dieu, de façon imparfaite, il est vrai, indigne, comme dira Paul, c'est vrai, je reconnais mes erreurs, mes manquements, mon insuffisante. Qui est suffisante pour ces choses? Mais notre capacité vient de Dieu, comme le déclare Paul aussi, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens. Alors, que le Seigneur nous aide à centrer nos vies sur lui. À quoi sert la vie s'il n'est pas là, lui, présent? À quoi sert toutes les réalisations que je pourrais accomplir si ce n'est pas pour lui, tout d'abord, et pour sa gloire? Un jour, nous serons devant le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que nos œuvres seront jugées à l'épreuve du feu. Pour certains d'entre nous et pour certaines de nos œuvres, de mes œuvres, ça va brûler comme de la paille. Pouf! Il ne restera plus rien. Paul nous avertit, si nous n'avons que de la paille comme œuvre, nous allons être sauvés, mais comme au travers du feu. Je ne sais pas tout à fait ce que ça veut dire, mais ça ne doit pas être très glorieux. Que nos vies vaillent vraiment la peine, n'est-ce pas? Consacrons nos vies au Seigneur. Ça vaut toujours la peine, n'est-ce pas? Et Dieu en est glorifié. Pour terminer, cette citation d'un auteur allemand, Erich Sauer, vous avez probablement lu ça, dans Le Triomphe du Crucifié, c'est un petit livre traduit en français, un beau livre. Il a écrit ceci, « Ainsi l'Église est un peuple qui a pour gouverneur le Seigneur Jésus-Christ. Pour loi, sa volonté. Pour richesse, sa magnificence. Pour territoire, la terre entière. Pour capitale, la Jérusalem céleste. Que ce sera glorieux. » Eh bien, en attendant, frères et sœurs, travaillons à l'œuvre du Seigneur de mieux en mieux, n'est-ce pas? Avec son aide et son secours. Amen. Prions. Seigneur, oui, merci pour ce rappel. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Non seulement tu es l'inventeur, l'architecte, mais tu es aussi celui à cause duquel tout cela est devenu possible grâce à ton sang, à ta vie que tu as donnée, ton corps qui a été meurtri. Merci pour ton sacrifice, Seigneur Jésus. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour la régénération. Merci pour ton Esprit Saint en nous. Merci pour l'Église. Merci de bâtir ton Église. Nous en sommes des témoins, Seigneur. Et nous ne pouvons que glorifier ton nom pour ton œuvre magnifique dans les cœurs et les vies de ceux qui nous entourent et pour ton Église. Et ma prière, notre prière ce matin, tous ensemble, Seigneur, que nous faisons monter vers toi, sauve encore, Seigneur. Et Seigneur, appelle du sein de cette Église des hommes et des femmes qui vont te servir dans un ministère spécifique auquel tu vas les appeler, tu vas les équiper, tu vas les envoyer. Envoie, Seigneur, des ouvriers dans ta moisson. Le monde autour de nous en a tant besoin. Merci de continuer à bâtir ton Église. Nous voulons, Seigneur, te dire que nous t'aimons et nous voulons centrer nos vies sur toi. Aide-nous en cela, pour ta gloire, l'avancement de ton règne. Au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.